BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, en direct jusqu'à 20h. On a beaucoup de choses à vous raconter. D'abord, le Crédit Agricole qui vient de nommer, ça y est, son futur directeur général. On va voir ça avec Frédéric Caroline Morisseau dans un instant. François Bayrou qui a parlé pour la première fois en tant que Premier ministre à l'Assemblée nationale. On parle de tout ça dans un instant dans le journal et puis avec nos experts qui reviennent bien sûr à 19h15 en direct. Avec eux, on parlera du secteur du logement, on en parlait tout à l'heure, qui a encore pas mal souffert cette année. On parlera aussi de l'affaire Perrier qui secoue Nestlé et puis du sort de TikTok qui n'est pas vraiment réglé du côté des États-Unis, même si on a l'impression que Donald Trump a totalement retourné sa veste par rapport à il y a 4 ans sur le sujet. Voilà le programme non exhaustif bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h, bonne soirée.
Votre rendez-vous avec le Cello 2025, le seul salon transport et logistique sans stand, sans exposants, sans visiteurs.
Good Evening Business, le journal.
Donc d'abord, on l'attendait et puis ça vient de tomber apparemment. Oui, c'est tombé il y a quelques minutes, le Crédit Agricole qui vient de nommer son futur directeur général. Bonsoir Caroline Morisseau. Il s'appelle Olivier Gavalda. Apparemment, c'était le favori. C'est lui qui va succéder à Philippe Brassac en mai prochain, Caroline.
Hein. C'était le nom qui courait le plus régulièrement et depuis longtemps. Et Olivier Gavalda, il a 61 ans. Il a été patron d'une caisse régionale, ce qui est un passage incontournable pour prendre la tête du groupe. Il était actuellement en charge en fait de l'ensemble des activités de banque universelle au sein de CASA, la structure cotée du groupe, ce qui en faisait le principal bras droit de Philippe Brassac, l'actuel patron, et donc son successeur désigné. Il n'a qu'un handicap, en fait, il a 61 ans, et compte tenu des statuts du groupe et de son âge, eh bien, il ne pourra rester que 4 ans aux manettes. D'où l'autre nom qui circulait avec insistance ces dernières semaines, Gérald Grégoire, qui lui n'a que 50 ans et qui cochait aussi toutes les cases, mais en optant pour Olivier Gavalda, le Crédit Agricole, en fait, a fait le choix un choix prudent, une forme de sécurité. C'est vraiment le candidat de la continuité. Il aurait pu choisir Gérald Grégoire pour rajeunir un peu la direction et puis inscrire le nouveau patron dans un mandat plus long, à l'image de ce qui s'est fait chez BPCE ou à la Société Générale. Mais il a vraiment fait le choix de cette sécurité et du candidat de la continuité. Un moment où quand même le Crédit Agricole est confronté à des gros dossiers. Le sujet le plus brûlant, c'est l'Italie. Il se retrouve au cœur de l'offensive d'UniCredit sur BPM. Il a des liens très étroit entre les deux banques et il va devoir défendre ses positions très rapidement en Italie.
Olivier Gavalda, donc, qui prendra la succession de Philippe Brassac en mai prochain lors de l'Assemblée générale.
Exactement.
Ça sera pour le mois de mai. Merci beaucoup Caroline. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. 19h03, les premiers mots donc de François Bayrou en qualité de Premier ministre sur les bancs de l'Assemblée où il était un petit peu seul, il n'y avait pas de ministre à côté de lui. Il l'a dit en tout cas, il veut rassurer sur les questions budgétaires. Écoutez.
La situation dans laquelle nous sommes objectivement, c'est la conséquence du vote de censure qui a eu lieu. On a des raisons de le conduire, mais c'est la conséquence. Et nous allons réparer cette situation. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement. Et les élus responsables sur vos bancs.
François Bayrou qui a rencontré ce matin Emmanuel Macron pour parler de la formation du gouvernement. Qui devrait le revoir ce soir pour en parler? On a par ailleurs appris que son discours de politique générale était programmé pour le 14 janvier prochain. L'incertitude politique économique qui va continuer à peser. L'INSEE nous a dit tout à l'heure qu'au mieux, dans le meilleur des cas, la croissance au premier et deuxième trimestre de l'année 2025 serait égale, dans le meilleur des cas, à 0,2%. D'ailleurs, à ce sujet, voilà une illustration que les choses tournent au ralenti. L'e-commerce en France, les chiffres le montrent, l'e-commerce commence à reprendre un peu de vigueur, mais après des moments très difficiles. Pauline Tadevin.
Après l'envol du e-commerce il y a une quinzaine d'années, l'activité a finalement atterri selon l'INSEE. Il y a eu l'euphorie entre 2009 et 2019 où le chiffre d'affaires du commerce de détail en ligne a doublé, porté par les grandes enseignes. La crise sanitaire ensuite a porté cette dynamique, notamment pour le non-alimentaire du fait de la fermeture des magasins. Et puis on observe un repli des ventes, moins 3,3% en 2022 et moins 1,7% en 2023. Une normalisation d'après les autorités auteur de cette note de conjoncture. En se généralisant, la vente en ligne s'est banalisée et elle perd son statut de locomotive du commerce. En 2022, les entreprises du e-commerce de détail ont même été ponctuellement plus nombreuses que les autres à juger leur situation de trésorerie difficile, d'après l'INSEE, qui note toutefois un regain d'optimisme des enseignes cet automne, que ce soit pour leurs ventes passées ou les perspectives d'évolution des effectifs. Retournement ou simple retour de flamme, s'interrogent les auteurs de cette note qui se donne quelques mois pour affiner le diagnostic.
Pauline Tadevin, dans l'actualité des entreprises, beaucoup de choses. D'abord, la main tendue de Stellantis à l'Italie. Vous savez que ça fait des mois que Giorgia Meloni demande au groupe de confirmer sa stratégie dans le pays. Eh bien, Stellantis l'a dit aujourd'hui à Rome. Il va rester sur place, il va même accroître sa production en Italie dans les prochaines années. Justine Vassogne.
Il est temps pour Stellantis de faire équipe avec l'Italie. Jean-Philippe Imparato a donné le ton dès le début de la réunion devant plusieurs ministres italiens, des équipementiers, des syndicats. Le directeur Europe de Stellantis a tenu à rassurer. Le groupe s'engage à maintenir toutes ses usines italiennes ouvertes dès 2026, alors que les sites tournent aujourd'hui au ralenti. La production devrait y augmenter grâce au lancement de nouveaux modèles, de petits véhicules, notamment dans son usine de Pomigliano à côté de Naples, où le constructeur va implanter sa nouvelle plateforme Stella Small. À Mirafiori, non loin de Turin, où les arrêts de production se sont multipliés cette année, une nouvelle génération de Fiat 500 devrait bientôt arriver. Un engagement de Stellantis qui ne va pas sans contrepartie. Rome, de son côté, promet de dépenser plus d'un milliard d'euros l'année prochaine pour soutenir la filière automobile. Après des mois de brouille et quelques semaines seulement, après le départ de Carlos Tavares, Stellantis et Rome reparlent à nouveau la même langue.
Justine Vassogne, il va y avoir du changement au sein du CAC 40 à partir de lundi prochain, ça vient d'être annoncé. Vivendi, on s'y attendait, va quitter l'indice après sa scission. C'est Bureau Veritas qui va le remplacer, ça sera effectif à partir de lundi prochain. Le verdict est tombé par ailleurs dans l'affaire Indexia. Le patron du groupe, Sadri Fegaillère, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison, dont 16 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 300 000 euros. L'affaire avait fait des milliers de victimes, des particuliers victimes de prélèvements bancaires abusifs. Et puis, force est de constater que désormais, quand Elon Musk parle, on l'écoute, quel que soit le sujet qu'il aborde. Là, a priori, il est un peu loin de ses bases, et pourtant, il vient de dire tout le mal qu'il pense du fameux F-35 américain. Croyez-le bien, toute l'industrie de la défense américaine est en émoi. Jean-Baptiste Huette.
L'avion de chasse préféré des Européens est devenu la cible d'Elon Musk. D'après le futur ministre américain en charge de l'efficacité gouvernementale, la conception du F-35 américain était vouée à l'échec. Coûteux, complexe, il n'excelle dans aucun domaine. Des chasseurs obsolètes à l'ère des drones qui ne feront que causer la mort des pilotes. Des commentaires qui alimentent un débat autour de l'industrie de défense américaine. Le programme F-35 dépasse les 2000 milliards de dollars. Or, de nombreuses start-up rêvent déjà de déployer leurs systèmes autonomes sur le marché militaire. Ceci alors que le futur numéro 2 du Pentagone est un pape de la tech américaine. Chasseur autonome ou chasseur piloté, la plupart des experts estiment encore que les missions effectuées par des pilotes sont difficiles à reproduire avec des systèmes autonomes. Cette question infuse aussi les industriels européens. Le patron d'Airbus Defence and Space, par exemple, qui travaille sur le SCAF, reconnaissait dans le FT qu'il fallait absolument avancer dès 2030 certaines capacités, en particulier dans les systèmes autonomes.
Ah oui, mais c'est Elon Musk qu'il a dit, donc c'est comme ça. 19h09 sur BFM Business. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Kersoulec. Comment ça s'est passé ce mardi à la Bourse de Paris?
Bien, à Paris, ça s'est bien passé, mais c'est finalement la seule place qui terminait en hausse, plus 0,12%, 7365 points, portés par le secteur du luxe. Une fois, n'est pas coutume, ça baissait ailleurs en Europe, à Francfort, à Londres. Ça baisse aussi d'ailleurs aux États-Unis, alors qu'on attend demain la décision de la Réserve fédérale sur la baisse de taux. Alors, on était porté aussi à Paris par Sanofi qui a annoncé une bonne nouvelle concernant une phase d'étude sur un médicament. Et figurez-vous que le secteur de la santé, il marche bien aussi du côté des États-Unis avec Pfizer qui a indiqué ses prévisions pour l'année prochaine, des prévisions qui ont soulagé le marché. On prend 3,6%. Donc le secteur de la santé en vedette, la tech en revanche qui ne se porte pas très bien. Nvidia qui continue de baisser. On est rentré en territoire de correction, moins 10% depuis ces plus haut. Donc un attentisme des marchés où la tech finalement baisse un peu. On est dans une semaine très remplie au niveau des banques centrales puisque il y a les États-Unis demain, mais il y aura jeudi la Banque d'Angleterre et aussi vendredi la Banque du Japon.
Merci beaucoup Aude Kersulek avec nous sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est en baisse. Le Dow Jones qui perd 0,7%, 43 409 points. Le Nasdaq, de son côté, en légère baisse, moins 0,2%, 20 131 points. On est à la mi-séance, bien sûr, du côté du marché américain. 19h11, nos experts reviennent dans un instant. Les premiers pas de François Bayrou à l'Assemblée en tant que Premier ministre. L'année catastrophique du secteur du logement en France et puis bien d'autres sujets, notamment TikTok. Donald Trump semble avoir littéralement retourné sa veste sur le sujet en l'espace de quelques années. Tout ça plus bien d'autres choses, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, pile 19h15, les experts du soir sont là, évidemment, comme tous les soirs, pour refaire l'actu. Jackie Isabello est revenu. Rebonsoir, Jackie.
Rebonsoir, Guillaume.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir, Bruno. Bienvenue, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Sixtine Moulet-Berthaud est avec nous. Bonsoir, Sixtine.
Bonsoir,
cofondatrice du média Le Crayon. Xavier Patrolin est avec nous. Bonsoir, Xavier. Bienvenue.
Bonsoir, Guillaume.
Président d'Albatros Capital, François Bayrou. Donc, tout seul. L'image est quand même rarissime. Premier ministre tout seul sur les bancs, le premier banc de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministre. Donc il répondait aux questions, pas au gouvernement, mais au Premier ministre aujourd'hui. Et il a fait passer ce message. Personne n'attendait autre chose. Vous me direz, oui, je serai attentif à la situation budgétaire du pays. Écoutez.
La situation dans laquelle nous sommes, objectivement, c'est la conséquence du vote de censure qui a eu lieu. On a des raisons de le conduire, mais c'est la conséquence. Et nous allons réparer cette situation. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement et les élus responsables sur vos bancs.
Tout un programme, d'ores et déjà. Bon, puisqu'on a la chance d'avoir une chef d'entreprise ce soir, Sixtine, cofondatrice du Crayon, qui côtoyait tous les jours des chefs d'entreprise. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous quand vous voyez cette situation, a priori, inextricable? Vous êtes comment, là?
Bah, honnêtement, je suis très inquiète, et surtout désespérée, parce que comment gouverner, c'est là le seul point où je suis d'accord avec lui, comment gouverner un gouvernement où personne n'est d'accord avec personne? Remettre la faute sur le fait de dire que c'est parce qu'ils n'ont pas une majorité, ça, c'est complètement faux. On a une énorme dette aujourd'hui à régler en France. Michel Barnier s'était proposé de réussir à régler ça en réduisant de 60 milliards la dette. Espérons qu'il arrive au moins à faire ça, au minimum, sinon ça va devenir quand même très compliqué. Et aujourd'hui, ouais, c'est ingouvernable. Et en fait, t'es constamment le stress que le RN ou LFI fassent la censure de quoi que tu proposes. Et comme en même temps, les propositions du gouvernement économique ne collent pas du tout avec les propositions des deux extrêmes. Enfin, c'est ingouvernable.
Et la chef d'entreprise que vous êtes pense quoi de cette situation? Est-ce que vous êtes bloqué, vous, Crayon, dans vos projets? Est-ce que parmi les chefs d'entreprise que vous côtoyez tous les jours, on vous dit bah, je suis bloqué, je ne peux pas arriver parce que telle ou telle mesure n'est pas passée ou j'attends quelque chose qui n'est pas passé?
Non, pour l'instant, honnêtement, pas encore. Je pense que nous, les entreprises, celles que je côtoie sont peut-être encore trop petites pour être impactées.
Ouais.
Par contre, tu sens bien dans le mood et même la mentalité des chefs d'entreprise qu'ils ne sont pas rassurés pour la suite. Beaucoup cherchent à réfléchir, même à bouger de la France. Et ça, c'est une réalité.
À bouger de la France, véritablement.
Ouais, parce que les impôts...
Et ça, vous voyez ça dans votre secteur de la tech, notamment...
Ouais, beaucoup, alors de la tech...
Du côté de la tech, on se dit, bon, on met les voiles, c'est ça aujourd'hui.
Bien sûr, aujourd'hui, les gens disent que la France n'est plus un paradis pour entreprendre. Moi, je ne suis pas d'accord, mais la majorité des gens le pensent. Et c'est un problème.
D'accord, c'est l'état d'esprit du moment, il est révélateur. Il va falloir trouver un gouvernement, il va falloir trouver un discours de politique générale qui rassure, ça sera pour le 14 janvier, enfin tout reste à faire. Bruno, comment est-ce que vous regardez la situation, vous, ce soir?
Oui, il va falloir une stratégie.
Il va falloir une stratégie, oui, on en revient toujours.
Alors, des gens qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas forcément ingouvernable. Moi, je crois que pendant 7 ans, là, on a eu assez souvent des gens qui étaient tout le temps d'accord, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre eux, ça ne nous a pas amené forcément quelque part, et donc du coup, là, on voit bien que l'équation est difficile, ça je partage cet avis. Quand François Bayrou parle du budget, évidemment Le contraire eût été étonnant quand même. Donc c'est quand même le sujet du moment.
Oui.
On voit bien que Michel Barnier, il a échoué sur une absence de stratégie.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on a 10 interlocuteurs, qu'on satisfait chacun sur un item et qu'il est insatisfait sur les 9 autres items quand on va voir les 9 autres interlocuteurs.
Ce qui peut être une stratégie par défaut, quoi. Je veux dire, enfin, voilà, l'impératif, c'est de faire passer un budget. C'est toujours de faire passer un budget aujourd'hui.
Il a un impératif de faire passer un budget. Ça, c'est clair.
Mais, enfin, même à tuyau percé en termes de réduction des dépenses publiques. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous préférez, vous, pas de budget ou un budget qui s'apparente à un tuyau percé?
Non, mais un budget et après on fait de la politique. Voilà, c'est ça. Le point, c'est que de toute façon, il y a un budget. Ce budget, comme il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il n'aura pas de grande stratégie. Ce qui n'exclut pas de donner des points de fuite et d'expliquer où on veut aller. Hein, puisqu'on ne s'en sortira pas juste avec des coups de rabot tous les ans sur les dépenses, un peu plus d'impôts, un peu moins de ci, de ça. Non, on ne s'en sortira pas comme ça. Donc du coup, il a une urgence de court terme. Il est à peu près clair qu'on n'aura pas de vote de censure à nouveau sur un budget, qu'on aura un budget, ça permet de tenir un peu, et puis bon, après, les gens vont discuter politique. Mais le point, c'est qu'à un moment donné, il va bien être obligé de définir son horizon à moyen terme, ce que n'avait pas fait Michel Barnier.
Ouais.
Un grand nombre de mesures qui étaient dans le PLF étaient des mesures transitoires.
Oui, oui.
Et donc, du coup, ça ne va pas. Et donc, on est déséquilibré d'un peu partout.
Xavier, qu'est-ce que vous dites à ce stade? Il faut un budget. On s'en fout, quitte à ce que ce soit un budget qui s'apparente à un tuyau percé, c'est-à-dire dans lequel on lâche complètement sur les efforts d'économie. Mais il faut un budget, malgré tout, parce que ça serait pire que tout. L'absence.
D'autant plus que je pense qu'on n'a aucun problème budgétaire. Mais on pourra y revenir.
Ah oui, ça c'est un budget.
On pourra y revenir après. Mais je pense que c'est essentiel.
Il faut un budget.
Voilà, c'est essentiel. D'ailleurs, on voit la situation à Mayotte. Bon, c'est un point de détail. Mais Mayotte, il y a une excellente intervention des pouvoirs publics et de toute infrastructure administrative. Mais à un moment, il va falloir faire des chèques, il va falloir intervenir. Bon. Et là, aujourd'hui, c'est impossible. Donc c'est une situation, de ce point de vue-là, critique. C'est au fond, Mayotte est une forme de, j'exagère un petit peu, mais une forme de synthèse de la problématique.
Et l'illustration qu'une loi spéciale ne résoudra pas les problèmes
voilà,
dans le cas. Finalement.
Des forces et faiblesses de la France. Parce que voilà un pays qui est soi-disant en faillite, mais qui est capable quand même de se mouvoir très rapidement, de projeter des forces de sécurité civile avant l'impact du cyclone, après évidemment l'impact du cyclone. Mais la question de la reconstruction, voire même la question des prochaines semaines, va nécessiter des enveloppes budgétaires extrêmement, extrêmement puissantes. Donc, effectivement, il faut un budget. Mais moi, je pense, alors je passerai la parole, je pense qu'on n'a aucun problème on n'a aucun problème de dépenses. Je vais faire sauter beaucoup. C'est pas le sujet. Et c'est parce que, typiquement, on n'a pas été capable, dans les instances de la Ve République, de développer un consensus sur quelle était notre problématique. Notre problème aujourd'hui, qui se solde sur le déficit budgétaire et l'endettement, c'est l'industrie. C'est la désindustrialisation depuis, au fond, les doubles chocs pétroliers des années 70. Nous n'avons pas résolu ce problème-là. Et on a un deuxième truc qui est un peu spécifique en Europe, c'est notre démographie qui est singulière par rapport à nos pairs européens. Donc ce qui fait que les disciplines budgétaires et économiques ne doivent pas s'appliquer de la même façon pour un pays qui a une dynamique démographique positive et des pays qui sont en déclin démographique.
Jackie, budget ou pas voilà.
Vous vous souvenez de ce bouquin du philosophe Kantorowicz, Les deux corps du roi? Bayrou, ça va être deux corps pendant la période de gouvernance. Son premier corps, ça va être Jean-Claude Duss. C'est oublie que tu n'as aucune chance, fonce, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Parce que le budget, il ne peut le prendre que comme ça, puisque les forces politiques en présence. Les forces politiques en présence, vous verrez, c'est un peu plus relevé le deuxième corps. Mais les forces politiques en présence n'ont pas l'intention de faire voter un budget. Non. Elles ont l'intention de provoquer un autre temps fort politique et donc de faire partir François Bayrou. Son deuxième corps, c'est Machiavel. C'est-à-dire, quelles sont les conditions de possibilité de protection du prince? C'est comment il fait en sorte de mettre la pression sur les groupes politiques pour faire croire qu'il aura été vertueux. Il va avancer comme ça, il va constituer son équipe comme ça. Et c'est en ça qu'il est meilleur que tous les techniciens qui l'ont précédé. Parce qu'il a cette espèce de schizophrénie qui constitue l'homme politique. Alors vous me direz, vous pouvez déjà me faire le croche-patte, m'attacher les deux lacets en disant oui, bon, mais par contre, sur sa gestion de son déplacement à Pau, c'est pas très malin.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est pas très malin, vous voyez. Donc je vous donne des bâtons pour me battre. Mais
sa grande chance, c'est qu'il sera plus difficile. Il sera plus difficile pour les oppositions de déclencher une deuxième censure après la première. La première, elle s'entend, la deuxième, elle passe beaucoup
dans l'opinion. Regardez les sondages. Marine Le Pen, tout le monde a dit Marine Le Pen, elle n'a pas été responsable. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sondages qui ont été publiés ce week-end dans le Figaro Magazine? Elle prend 3 points. Donc, à Paris, on dit c'est comme avec Trump. Oh là, il va perdre. L'autre, il arrive, il ratisse tout le monde. Et personne ne se dit bon, sur les analyses, il faudrait peut-être qu'on les revoie parce qu'on n'a rien compris à Trump. Même tous les grands experts, Là, c'est pareil, on ne comprend pas véritablement ce qui se passe ou alors on y fait exprès. Moi, je pense qu'on y fait un peu exprès, mais regardez les sondages. Personne en France ne condamne l'attitude de Marine Le Pen dans l'exercice de la censure. C'est quand même ça qu'il faut voir dans les sondages. Donc il faut en tirer des leçons, je pense.
Sixtine.
Non, c'est vrai que j'étais la première à dire que du coup le RN ne referait pas de censure, mais effectivement j'ai été aussi surprise des statistiques qui montraient qu'en fait elle pourrait limite en refaire un, qu'elle pourrait très facilement le justifier. Et c'est vrai que je reviens juste, j'ai été moi aussi hyper étonnée. Notre Premier ministre qui est à Pau en train de faire un conseil municipal, ce qui se passe vraiment, et c'est là on se dit où sont les priorités de notre Premier ministre?
Ça a été dûment exploité par les oppositions. M'avait un petit peu surpris en disant que dans le monde de la tech, on était partout. Je reviens sur ce que vous me disiez il y a 3 minutes parce que ça m'interpelle. Qu'est-ce qui fait peur véritablement? C'est l'absence de mesures innovantes? C'est le monde de la tech aujourd'hui?
C'est l'absence de solutions à des problèmes économiques qui touchent tout le pays et qui ne font qu'empirer. Et donc, en fait, les entrepreneurs ont l'impression.
Typiquement, voilà, je sais pas si on prend deux, trois exemples concrets, deux, trois mesures concrètes. Voilà, qu'est-ce que ces entreprises
Non, mais tout ce qui s'est passé avec la flat tax qui augmente, la dette qui nous fait que. En fait, on a l'impression que le pays est en déclin. Et en fait, la France, à la base, était la cinquième puissance mondiale. Là, on a l'impression que, on va devoir avoir plus d'impôts. De devoir régler un budget, on n'a même pas de budget, de devoir régler une dette qui, pour l'instant, on a l'impression qu'il va être impossible à résoudre, de devoir voir qu'avec la Commission européenne, qu'on puisse gagner un peu de temps, etc. Et en fait, les entrepreneurs, ils disent, attends, pourquoi j'irai pas en Suisse? Pourquoi j'irai pas à Dubaï? Pourquoi j'irai pas en Belgique? C'est bien plus intéressant, je peux continuer à faire ce que je fais, mais d'un autre pays. Et en fait, je ne suis pas taxé. Mes employés, je peux les payer beaucoup plus cher sans avoir à payer des impôts énormes. Et c'est ça, aujourd'hui, le plus gros problème pour les entreprises.
J'ai l'impression que les avenues, sur la fiscalité ces dernières semaines, ça fait beaucoup de vilains, cette affaire. On n'aura pas le temps de développer votre théorie. Xavier, selon laquelle la France n'a pas un problème de dépenses, voilà, mais enfin, c'est bon. On sent bien qu'effectivement, la priorité, ça va quand même être de faire passer un budget, même s'il est.
C'est très iconoclaste, mais c'est essentiel. Oui. Si vous écoutez les dépositions, notamment du ministre de l'ex-ministre de l'économie et des finances devant la commission des finances au Parlement, manifestement, c'était un problème de recettes, pas un problème de dépenses.
Oui.
Et la réflexion vient tout simplement quand vous comparez la dépense par habitant entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas de différence stratosphérique. Nous avons un problème de PIB par habitant. D'accord. Et nous avons un problème de taux d'activité.
Donc c'est un problème de productivité,
c'est de taux de participation. Voilà, mais si vous résolvez, si vous passez, je fais court, si vous passez de 67...
Je partage l'idée qu'on a un problème de taux d'activité. C'est-à-dire on avait le taux d'activité du Danemark ou des Pays-Bas, qui ne sont pas la Corée du Nord, on aurait 5 millions d'actifs disponibles ici et maintenant, plus. Voilà. Donc du coup,
c'est toujours l'idée qu'il faut travailler plus en France. Mais travailler plus, ça veut dire faire travailler plus d'actifs potentiels.
Du coup, pas de problème démographique. D'autant moins de problème démographique.
Au contraire.
On nous parle d'intelligence artificielle. Il y a c'est comme tout progrès technique. On nous dit ça va détruire des emplois, c'est la catastrophe. Mais par ailleurs, on nous dit on a un problème démographique. On va manquer de main d'œuvre pour occuper des emplois. Oui. Mais le lien entre les deux, il est jamais fait. Donc ça, c'est quand même un manque. Après, je suis pas du tout d'accord avec Xavier sur le fait qu'on n'ait pas de problème de dépenses. Je pense qu'on a énormément de recettes inefficientes, et que du coup il faut baisser les deux.
De qualité de la dépense. Je me suis mal exprimé. De qualité de la dépense. Oui. Mais par exemple, quand j'entends le Premier ministre, je crois que c'est le Premier ministre qui dit on va faire plus avec moins. Moi, franchement, il y a
qu'un seul. C'est Michel Barnier, ça.
C'est la définition de l'inefficience.
Mais plus avec moins. Faire mieux avec autant, ça je sais faire. Ouais. Faire mieux avec moins, il y a Elon Musk qui sait faire.
Enfin, c'est la rhétorique qui l'emporte. Oui,
voilà. Pour faire mieux avec moins, il faut préalablement avoir investi et avoir tout réorganisé. Donc on sait que c'est pas possible pour l'éducation nationale, on sait que c'est pas possible pour les hôpitaux, on sait qu'on peut améliorer, mais ça va être des petits pas, des tout petits pas. Donc on peut améliorer l'efficacité, mais faire plus avec moins, alors là...
Qu'ont retenu les gens?
C'est l'époque qui veut ça, qu'on dit ça.
Parce que Bruno et Xavier sont des hyper-experts, donc c'est vrai qu'on peut se perdre un peu dans cette technicité qu'on bénit par ailleurs quand on fait appel à leur service. Mais de ce qu'on retient quand on est, comme moi, un auditeur lambda, c'est quand même les gens se sont dit, Barnier nous avait dit 2/3 d'économie, 1/3 d'impôts,
et puis à la fin de la discussion, ça s'est renversé comme une crêpe.
Ça s'est retourné, et les gens se sont dit, encore une fois, c'est c'est les mêmes qui vont trinquer. Et ça, dans l'exercice d'un nouveau Premier ministre, qui, même si Michel Barnier n'a pas voulu l'être, est le chef d'une certaine majorité,
oui.
Eh bien, cette dimension politique, il faut l'intégrer au plus profond de son être de nouveau chef du gouvernement.
Je retiens ce qu'a dit Bruno Coquet, il faut travailler plus, c'est-à-dire plus collectivement, ça veut dire travailler notamment plus les seniors, notamment, voilà. On est prêt à faire de la place aux seniors dans la tech aujourd'hui ? Parce que c'est un vrai sujet, ça, finalement.
Bah, bien sûr.
Oui ?
Oui.
Il n'y a pas d'âge pour aller
dans la tech. Non, il n'y a pas d'âge. Bon, c'est vrai que tu es plus enclin à embaucher des jeunes. Mais,
ouais. Mais on oui. peut dans l'absolu, bien.
Bien sûr. Bon.
Mais y compris dans la force de l'âge, le taux d'activité des hommes
mais bien sûr.
Entre 25 et 50 ans a baissé. Depuis une quinzaine d'années.
Je me plante ou à 45 ans, vous êtes considéré comme senior chez Pôle emploi aujourd'hui, ou grosso modo, c'est ça aujourd'hui.
Dans les
mais vous voyez un peu là.
Surtout dans les entreprises.
Ah, c'est dingue.
Moi, la première fois qu'on m'a dit que j'étais trop vieux pour un job, j'avais 42 ans. Donc, une grande entreprise française. Non, t'es un peu vieux.
Non, tu devrais essayer maintenant le poste de Premier ministre. Parce que, c'est plus l'hôtel Matignon, c'est
l'EHPAD. T'es trop vieux, maintenant t'es trop jeune.
T'as un critère d'âge, et c'est à partir de 70 ans, mais pas avant.
C'est tout à fait.
Je présente Bruno.
C'est des vocations chez Bruno Coquet, si ça se trouve. Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h33, on est reparti avec nos experts. On est toujours avec Sixtine Moulet-Berthaud, avec Bruno Coquet, avec Jackie Isabello, avec Xavier Patrolin. Je voudrais qu'on écoute, on en parlait tout à l'heure, le patron de la Fédération française du bâtiment, parce que le secteur vient encore de vivre une année absolument cataclysmique. Il a dit il y a 35 à 40 000 emplois qui ont été supprimés cette année, et l'an prochain, ça devrait être 100 000. Bref, c'est une cata absolue. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure.
Depuis 2 ans, les permis de construire sont plus qu'à l'arrêt. Ils sont inexistants. Donc, malheureusement, nos services, très précisément, avaient prévu qu'en 2024, il y avait un premier plongeon. Parce qu'il n'y a pas de construction neuve. Le logement neuf, c'est 30% de notre activité dans le bâtiment. C'est aussi beaucoup de logements pour les Français qui n'ont pas été construits. Pratiquement 120 000 logements n'ont pas été construits en 12-14 mois depuis un an. Donc, bien sûr, c'est la crise. Bien sûr, moins 6,6%, c'est de la récession nette, grave. Les mots, il faut les peser. Je les pèse. C'est vraiment une récession. Et puis, un chaos à venir. Si rien n'est fait, puisque rien n'est fait depuis de trop nombreuses années sur prendre en compte le logement des Français comme priorité et en tout cas soutenir la filière pour pouvoir construire.
Voilà Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Un mot rapide là-dessus parce que d'une part, rappelons que le bâtiment ça fait vivre directement ou indirectement, je sais pas si c'est 3-4 millions de personnes en France. Deux, on dit, on l'a répété souvent, on a parlé Xavier notamment à quel point le mal logement est la base de bien des mots MAUX finalement, l'intégration, le boulot, la santé mentale, etc. etc.
Moi, je peux dire juste une chose, il faut penser aussi aux petites entreprises du bâtiment.
Mais oui, je dis 3-4 millions de personnes.
Quand on écoute le président de la CAPEP, par exemple, ils vous disent à cette situation-là, il faut ajouter aussi le sujet de MaPrimeRénov'.
Oui.
Parce que les artisans du bâtiment sont obligés aussi d'aller de U à Dia entre MaPrimeRénov' qui n'arrête pas de changer.
15 moutures,
ils participent à la construction de logements, mais ils ont tout un tas d'autres chantiers de transition énergétique très importants. Et puis en plus, sur la gestion de leurs déchets, pareil, c'est un peu le bazar. Ça arrête pas de changer. On leur impose tout un tas de choses. Donc ça veut dire que les très très gros de la FFB et aussi un nombre très important de ces petits artisans d'une dizaine de salariés, eh bien c'est l'ensemble d'une chaîne qui fait vivre le bâtiment et la rénovation. Et ça se passe pas très bien pour eux. Et c'est pas une bonne nouvelle. Rappelez-vous cette citation.
Absolument.
Quand le bâtiment va, tout va. Mais on ne dit jamais quand le bâtiment ne va pas,
priorité
rien ne va.
Absolue qui n'est pas traitée depuis des années. On s'est réjoui quand Michel Barnier en a dit trois mots dans son discours de politique générale il y a 2-3 mois.
La formule d'Edouard Philippe, c'est une bombe sociale.
Oui.
Et donc elle n'est pas adressée. Et donc à ceux justement qui parlent de limiter la dépense, je pense que l'immobilier ça incarne bien. C'est-à-dire qu'on a fait des coupes sur l'immobilier, même s'il y a eu des subventions. Je rappelle que le logement social a accumulé, le livret A accumulé des tombereaux de liquidités depuis une dizaine d'années, et que ces liquidités sont aujourd'hui parquées pour servir au financement des EPR, mais pas pour participer au financement du logement social. Et je rappelle, pourquoi je parle du logement social, parce que j'en viens, mais surtout je rappelle qu'il y a 2,6 millions à 2,7 millions de foyers qui sont en liste d'attente. d'attente sur le logement social. Ça veut dire que le marché immobilier est complètement bloqué. Absolument. C'est-à-dire logement social, logement intermédiaire et l'accès pour les jeunes, même les primo-accédants, même les jeunes qui ont surdiplômé.
Oui, oui.
Alors, dans des grandes métropoles, n'arrivent pas à se loger. Ou alors, il faut qu'ils aillent dans des métropoles où les prix sont en train de s'effondrer. Mais à Paris, typiquement, on n'arrive pas. Donc là, si les pouvoirs publics n'adressent pas cette problématique d'ensemble, là, c'est une vraie bombe sociale. Ouais. Je pense que le terme est propre. Et bombe économique pour toute la filière.
Le chiffre que nous rappelle le patron de la Fédé, par ailleurs, qui dit 12% des étudiants arrêtent leurs études parce qu'ils n'ont pas de logement, effectivement. Voilà. Ils peuvent pas se loger. Bruno, un mot là-dessus.
Sur l'Himalaya, les choses qui vont pas dans ce pays, hein, comme dirait François Bayrou, il y a la politique du logement. C'est le truc qui marche pas depuis des années. Et paradoxalement, c'est pas un paradoxe parce qu'il a un problème immédiat, mais le président de la FFB, il vient demander qu'on continue, oui, en fait.
Bien sûr. Et donc, il veut qu'on fasse, qu'on s'engage à faire ce que vous voulez faire. PTZ élargit l'ensemble du territoire.
Alors, il demande de la visibilité et de la stabilité. Il a parfaitement raison. Le point, c'est qu'après, il demande du PTZ, pas du Robien, ou je sais plus comment ça s'appelle, en fait, il demande la même chose, mais alors qu'il devrait demander un plan différent, puisque ça fait 30 ans que ça n'a pas marché. Eurostat, pendant longtemps, publiait une statistique où la France était en tête en Europe, c'est assez rare. 83% des Français ne sont pas logés au prix du marché.
Oui.
En dessous, le prix du marché.
En dessous du prix.
À cause de l'intervention publique. Donc on voit bien qu'il y a un problème sur l'intervention publique qui ne vient pas forcément du montant qu'on dépense, mais de son inefficience, quoi. Donc voilà.
Voilà pour cette crise du logement, effectivement. On va attendre le 7e ministre du logement l'espace de 4 ans et demi, nous rappelait le patron de la Fédération française du bâtiment. Voilà, ça commence.
Même chose à l'éducation nationale.
Même chose à l'éducation nationale,
c'est
absolument.
Parce qu'il y a trop d'étudiants, en fait, qu'on n'a pas les
loger. Ça va être ça. Écoutons Donald Trump. Alors, parce qu'on voulait redire un petit mot, on en a parlé, on n'a pas pu en parler hier soir, du dossier TikTok. Vous savez que la maison mère ByteDance n'a plus qu'un mois pour vendre l'appli, faute de quoi elle serait tout simplement interdite sur le sol américain. 170 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis. Vous imaginez un petit peu le carnage. Écoutez Donald Trump, alors qu'il disait pique-pente de TikTok il y a quelques années, qui nous donne le sentiment d'avoir, mais alors, complètement retourné sa veste. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques heures.
Nous allons jeter un œil à TikTok. Vous savez, TikTok a une place importante dans mon cœur parce que chez les jeunes, j'ai gagné avec 34 points d'avance. Et certains disent que TikTok a quelque chose à voir avec ça.
Elle a le mérite de ne pas prendre de gants, de dire les choses clairement, quand même.
Je pense l'une des raisons principales pour lesquelles il a gagné les élections, d'être autant franc. Non, mais c'est un vrai sujet, Christine. Parce que plus de la moitié des Américains utilisent TikTok, donc ça peut créer un vrai problème de popularité pour le président de l'enlever.
Ouais.
Mais après, en revanche, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que TikTok est l'un des algorithmes qui est le plus puissant par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que les algorithmes TikTok, c'est-à-dire que tu consommes un contenu, c'est la plateforme TikTok qui arrive le plus facilement à comprendre ce que t'aimes et à te mettre en avant après, à te pousser dans tes propres bulles algorithmiques.
Ouais.
C'est un peu un danger, parce que si la plateforme est réellement manipulée, donc tu as constamment du contenu qui te pousse à penser tel ou tel sujet et en fait à te manipuler inconsciemment, parce qu'à force de voir des sujets, ça rentre dans ta tête. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Roumanie pour les élections,
oui,
qui ont été quand même refusées par la Cour constitutionnelle, parce qu'il y avait une possibilité que ça mettait en avant le candidat pro-russe. Et le problème, c'est que ça
accuse effectivement la Russie d'avoir laissé TikTok manipuler un peu le cours des élections de la campagne en Roumanie, effectivement. Mais il y a ça, plus l'interdiction récente. Enfin, il y a plus que jamais de mauvaise presse autour de TikTok. Il y a aussi l'interdiction aux adolescents en Australie. Je pense à ça parce que c'était il y a quelques temps.
Et puis les Chinois qui ne proposent pas le même TikTok.
Ouais,
mais David Colomb, dans ses bouquins sur la guerre de l'information, a montré les sources des études qui indiquent que si on consomme 3-4 contenus complotistes sur son compte TikTok, on est instantanément submergé au bout de 3 jours. Alors, pour Trump, faut expliquer un peu. C'est que, je parle sous votre contrôle, c'est que ces nouveaux réseaux sociaux ont mis en place une espèce de mémification de la communication politique. Et donc, Trump est devenu un mème, c'est-à-dire une image qui est chargée de sens. Donc, quand il dit conneries sur les migrants qui mangent des chats, qui mangent des chiens, on dit « Ah, c'est terrible !» Mais il va chercher, et eux, ils arrivent à retourner l'image. Quand il fait sa petite danse, fait pas juste pour être ridicule. C'est devenu une image de ralliement avec tout un électorat. Et certains jeunes qui sont effrayés par la violence de la politique, l'incapacité des hommes et des femmes politiques à expliquer clairement des sujets, alors que Donald Trump, lui, il a 300 mots de survie et il parle très simplement, eh bien, il est arrivé à donner une dimension entertaining à la politique. Et en allant les chercher avec cet aspect comme ça, qui est de l'homme de spectacle qu'on connaît, derrière, il va distiller de la théorie politique. Et en ce sens-là, TikTok, c'est un
outil formidable. Mais c'est pareil en France. Pourquoi les extrêmes plaisent autant aux jeunes aujourd'hui?
Rappelez-vous Bardella au moment des
C'est lunaire. Et Bardella
sur les...
Il y a Ruffin, il y a Antoine Léaumont, enfin même chez...
Guiraud, pareil.
Même chose. Ils ont réussi à comprendre les codes des réseaux sociaux. Ils sont suivis, certains, par des centaines de milliers, voire des millions de jeunes sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ils font exprès de faire des mêmes. Et même le président de la République a fait pareil pendant son débat face à Marine Le Pen. Personne ne comprenait pourquoi il faisait exprès de faire des pauses. Tu disais, mais pour un président de la République, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il savait très bien que ça serait réutilisé en même ensuite sur les réseaux sociaux et donc toucherait beaucoup plus facilement tous les jeunes.
Est-ce que vous imaginez qu'on puisse voir TikTok demain interdit sur non désiré sur le sol américain? Ça paraît complètement insensé.
De manière rationnelle, j'ai du mal à y croire. Après, le problème, c'est qu'avec Donald Trump, faut jamais dire jamais parce qu'il est capable de tout.
C'est vrai.
Mais moi, ça me paraîtrait dingue parce qu'il sait qu'il va avoir comme énormément d'Américains qui vont le détester de faire ça.
Oui. Les parents peut-être
revendu,
surtout.
Le patron d'Oracle est déjà quasiment acheteur parce que
Larry Ellison, le patron d'Oracle il y a quelques années, était effectivement le premier à dire, moi je regarde le dossier. Enfin, c'était Xavier, c'était il y a seulement 4 ans, quoi. Donc
oui. Puis il y a une accélération juridique puisque tous les recours que dépose TikTok, puisque le dernier recours c'est la Cour constitutionnelle.
Alors là, ils ont saisi effectivement la
Cour suprême.
La Cour suprême, absolument.
La Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Et donc la date limite c'est le 19
janvier, ouais, c'est un mois.
Un jour avant la cérémonie d'introduction de Donald Trump, comme par hasard. Non, mais c'est fortuit. Non, mais je pense qu'ils surtout, oui, ils cherchent acquéreurs. Il y aura des acquéreurs, il y aura pas de. Donc TikTok opérera, mais simplement sera plus sous contrôle juridique chinois. Et il faut reconnaître, ça pose quand même quelques problèmes, parce que j'imagine que l'empire du milieu doit pomper quand même un max d'informations.
Bien qu'ils s'en défendent.
Et oui, faut lire les David Colomb, faut regarder les Reichstag, faut regarder tous les experts. C'est documenté. TikTok pose un gros problème.
En termes, oui,
et la manière dont ça va chercher vos côtés les plus sombres de votre personnalité, et dont ça peut manipuler certaines personnalités, c'est des choses qui sont avérées aujourd'hui.
Bruno Coquet.
Que ce soit des Chinois, mais que ce soit aussi
les Américains, les Occidentaux.
Tout un tas d'opérateurs qui sont sous influence russe. Hein.
Bruno.
Moi, je suis nul en réseaux sociaux, mais je trouve que la leçon de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas former son jugement en fonction de l'intérêt du moment de Donald Trump ou d'un autre. Puisque c'est ça, si on veut une stratégie, ce n'est pas finalement des gens qui vont évoluer au gré de leur intérêt, en l'occurrence électoral, parfois financier de Donald Trump, qu'il faut la former. Si on veut notre indépendance, notre souveraineté, retrouver un sens européen aux choses, il ne faut pas se caler là-dessus, il ne faut pas écouter. Soit factuellement, les Chinois nous espionnent avec TikTok, soit non. Mais voilà, je pense qu'il faut le décider tout seul en Europe et regarder ça de notre propre intérêt.
Factuellement, les Chinois nous espionnent
et ils se servent
aussi de TikTok. C'est comme ça qu'il faut le formuler, si tu permets, Bruno. Oui.
Certains disent TikTok aujourd'hui, c'est finalement un allié pour Donald Trump, c'est une alternative à Facebook, à Meta, qui n'avait pas été très tendre avec lui en 2020, 2021, notamment au moment de l'attaque sur le Capitole. Voilà, on peut aussi voir ça comme
pas
ça.
Que TikTok, Twitter
aussi, exactement. Tout ça, il y a seulement 3 ans. Bon, en toile de fond, il y a effectivement cette guerre commerciale, cette guerre entre les Chinois et les Américains. Voilà, c'est un épisode, une illustration de ce qui va aller crescendo dans les prochains mois, Xavier Dameau. Enfin, c'est...
Oui. Puis je pense que la conflictualité entre les États-Unis, bon, on enfonce un peu les portes ouvertes, et l'empire du milieu va connaître des niveaux d'intensité qui vont aller croissants.
Oui.
Et donc TikTok, c'est juste un détail, mais on le voit sur les voitures autonomes. Hein, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une voiture électrique aujourd'hui? C'est des batteries avec des 4 roues, des roues aux extrémités.
Mais une batterie qui pèse 40% de la valeur ajoutée. Voilà,
avec un ordinateur qui enregistre des millions de données. Et quand vous avez une voiture, quand les Européens achètent des voitures chinoises, ces millions de données qui sont enregistrées au fur et à mesure du kilométrage sont immédiatement envoyées en Chine. Il faut savoir ce truc-là. Hein, la différence entre une voiture thermique et une voiture électrique, c'est que précisément, vous avez un ordinateur sur roue. C'est un ordinateur. Hein. Il y a des resets. Vous avez votre voiture électrique, vous la garez le soir et le lendemain matin, vous remontez dans votre voiture. C'est plus la même parce que dans la nuit, elle a été resetée par le producteur. Le concepteur qui est à base de téléchargement de programmes satellitaires et vous avez des paramétrages de motorisation, de conduite, d'autonomie de conduite qui ont profondément changé. Donc vous imaginez bien que les Chinois, mais c'est Tesla fait la même chose, pompent énormément de données. C'est la même chose. Oui. C'est la généralisation du smartphone, mais en puissance au carré. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, moi, je comprends bien que les Américains se préoccupent de ce qui est en train, dans la rivalité vis-à-vis de l'empire du milieu, puisque manifestement, il y a asymétrie entre les Chinois et les Américains. On n'a pas, les opérateurs américains ne peuvent pas faire la même chose en Chine. Donc, il y a bien une asymétrie informationnelle. Et pour les Européens, le problème va se poser de la même façon.
Voilà pour ce dossier TikTok, l'un des épisodes nombreux de cette guerre commerciale, cette guerre d'influence entre Chinois et Américains. Un milliard d'utilisateurs actifs. C'est ça, TikTok aujourd'hui dans le monde, 16, 170 millions aux États-Unis, 1 milliard dans le monde aujourd'hui.
Et puis surtout les futurs citoyens, parce que les jeunes sont complètement, enfin nos ados, sont dingues de cet outil. Quoi.
La moyenne d'âge des utilisateurs, on sait quelle est la moyenne d'âge des utilisateurs
de TikTok. Elle est très jeune, elle est entre 18 et 24 ans, je dirais.
Et les 13-18 ans sont extrêmement connectés sur cet outil qui est hyper addictif, qui est drôlissime et qui est très utile. Vous avez plein de médecins, vous avez plein de profs,
aujourd'hui on a plein de gens
qui disent. Ils font des choses très très bien, faut le dire aussi.
Moi je connais des gens qui à la base adorent les médias, écoutent la radio, etc. Donc vraiment des gens qui se cultivent beaucoup, qui aujourd'hui l'une des premières sources d'information, ils les chopent sur TikTok.
Oui.
Et moi j'utilise beaucoup TikTok en tant que personne qui publie du contenu dessus, je regarde très peu du contenu sur TikTok. Ça m'a étonné d'entendre des gens qui arrivaient aujourd'hui à apprendre des choses vraiment concrètes et intéressantes, en tout cas des choses, on va dire, de qui sont pas des danses, du maquillage, vraiment des choses des arguments de société qu'ils avaient pris sur TikTok. Oui. J'étais hyper étonnée que TikTok devienne en fait un média, quoi.
Comme quoi c'est possible.
Mais comme quoi.
Et la barre de recherche de TikTok est devenue la barre numéro un de recherche d'information pour les jeunes. Tous les grands instituts qui étudient les médias le disent maintenant.
Quelques minutes très rapidement pour dire un mot de cette polémique autour de Perrier qui rattrape la maison mère Nestlé. Je sais pas si vous avez suivi ça aujourd'hui. Cette enquête de l'Agence régionale de santé d'Occitanie dévoilée par certains de nos confrères, Le Monde, Radio France, qui dit en substance que pourrait se poser la question de la fermeture de la source Perrier de Vergès dans le Gard pour risque virologique. L'eau extraite de la source n'est pas biologiquement saine et n'est pas tenue à l'abri de toute pollution, dit ce rapport notamment. On en reparlait tout à l'heure avec Jackie, ça nous a fait penser à un scandale sanitaire qu'avait connu Perrier au début des années 90. En 90 d'ailleurs, février 90, l'affaire des traces de benzène finalement. C'est un cas d'école pour les communicants comme vous, ça Jackie, cette affaire Perrier.
Ah oui, nous c'est la racine alpha de tout un tas de théories.
Vous qui êtes communicant, vous traiteriez ça comme il y a 34 ans.
Quand on regarde ce qui s'est passé à l'époque, force est de constater que si les conseils qu'on donne, qui est de dire il faut essayer de rester dans une mode de sincérité, d'honnêteté avec ses publics, parce que honnête et sincère, et bien ensuite les consommateurs vous pardonnent quand vous faites des erreurs. C'est pas du tout ce qui s'est passé en 90. On a fait peur aux consommateurs.
Notre étage de
Perrier a mis 15 ans à retrouver les résultats que la société a enregistrés, qui étaient des bons résultats d'avant la crise. Donc maintenant, ça a bâti tout un tas de réflexes dans l'industrie agroalimentaire qui n'existaient pas auparavant. Après, l'espèce de pied de nez, c'est quand on a regardé véritablement ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les histoires de filtres, sur l'origine de ce qu'on appelle, nous, le déclenchement de l'alerte, qui est vraiment le truc auquel il faut penser tout de suite avant de le faire. Eh bien, l'histoire a changé un peu avec le temps. Mais voilà, pour dire que c'est vraiment un cas d'école de tous les communicants.
Le cas du benzène, c'était en 90, il a fallu 23 ans à Perrier pour retrouver les niveaux de vente de l'époque, c'était en 2013. Et c'est cette catastrophe, justement, cet épisode qui a permis à Nestlé de racheter Perrier dans l'intervalle. Bruno Coquet, un mot là-dessus.
Moi, je crois qu'il y a déjà de dégradation de la qualité de l'eau. Hein. On a vu le papier là-dessus, de l'eau potable, et donc du coup, ça c'est déjà un sujet en amont. Après, sur cette affaire qui touche Nestlé Water, mais pas seulement sur la sauce Perrier, il me semble qu'il y a des pratiques interdites
cachés aux consommateurs, auxquels on a vendu des produits qui n'étaient pas ce qu'il y avait sur l'étiquette, cachés par le gouvernement qui l'a appris il y a 2 ans avant que tout le monde le sache. Et donc, il y a un moment donné, c'est, toutes ces sources ont une autorisation d'exploitation. On enlève l'autorisation d'exploitation. Et ce qui ne veut pas dire que ça résout le problème de la qualité de l'eau en général. Mais en tout cas, moi je suis choqué qu'on maintienne une autorisation d'exploitation à une entreprise qui fraude à ce niveau. Voilà. Donc je pense que, en l'occurrence, la norme, elle est intéressante et elle doit s'appliquer.
Nestlé Waters dit on opère la source conformément aux exigences sanitaires et dit c'est un rapport préliminaire auquel nous avons apporté commentaires et précisions.
Bah, ils ne vont pas délocaliser bah, si non, on les sanctionne.
Bah, les questions économiques, les sujets de délocalisation commencent à faire causer depuis ce matin. Oui,
c'est non, mais le vrai sujet, c'est que la santé publique doit passer avant le business, en fait. Et là, justement, comme vous le rappeliez, ce n'est pas le premier truc qui est arrivé au groupe Nestlé. Hein, oui. Avec les pizzas Buitoni qui étaient complètement intoxiquées. Les produits pour bébés qui dans certains pays émergents sont beaucoup plus sucrés que nous chez nous dans les pays occidentaux. Donc en fait forcément on se pose la question de qu'est-ce que fait le groupe. Et d'ailleurs il y a eu un nouveau DG qui est arrivé qui est français.
Oui, oui.
Depuis cet été si je dis pas de bêtises, espérons que peut-être ça va faire changer les.
Qui a filialisé tout ce qu'il a l'activité en bouteille.
Xavier, sinon le groupe continue à perdre des.
Xavier pour conclure là-dessus sur ce. C'est pas le dernier scandale de ce type évidemment.
Voilà. Oui mais c'est bon alors moi je vais le prendre sous le plan écologique. Je trouve que c'est quand même très intéressant parce que ça a lieu dans une région pas tout à fait anodine, le Gard, qui est victime de sécheresse depuis plusieurs années. Et il est possible, au fond, que ça soit un marqueur de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le réchauffement climatique dans le Gard est en train de provoquer de profondes altérations, notamment des nappes phréatiques.
Oui.
Et les matières dont il est évoqué, moi, j'ai pas eu accès, évidemment, puisque pour l'instant, le rapport reste confidentiel, j'ai pas eu accès. Mais on parle de matières fécales. C'est quand même très gênant. Et surtout, ce qui est très gênant dans cette affaire. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des infiltrations dans la géologie, des sources. Et donc, ce qui est en train de se passer, ça se trouve, ce qui est en train de se passer dans le Gard, pour cette source Perrier, au-delà des problèmes Nestlé, de gouvernance, de développement durable et tout ça, c'est peut-être annonciateur de ce qui va se passer plus généralement sur beaucoup de nos territoires en France. C'est-à-dire une altération des sols, une altération des nappes phréatiques, des mécanismes de filtration qui n'opèrent plus, et au fond, la sédimentation de la révolution industrielle depuis plus d'un... Mais est en train de provoquer et en train de s'accumuler dans la terre, et au fond, la terre est en train de réagir. Quand vous pensez aux sols argileux qui sont en train de se contracter, se dilater en fonction des zones pluvieuses et sécheresses, ça, ça a des impacts. Et probablement, alors je m'avance un peu parce que je suis pas un expert sur ce sujet, mais je sens que ça, vous voyez, c'est beaucoup plus. C'est quelque chose d'assez sérieux.
On
donc
verra.
Je donne pas cher de Perrier sur le.
On suivra le dossier évidemment sur BFM Business. Allez, 19h53, l'extra time pour terminer. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes comme tous les soirs. Il faut tenir les 30 secondes. Allez, Sixtine, c'est à vous, 30 secondes.
Bah moi,
coup de gueule ou coup de cœur, évidemment.
Moi, c'était plutôt un coup de cœur, et même pas sur un sujet précis, mais en général, de voir que notre jeune génération, nous, se bouge beaucoup. Moi, je vois beaucoup dans l'écosystème entrepreneurial qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent, tous les secteurs confondus, beaucoup d'entreprises à impact, et pas que sur l'écologie, sur la santé, sur la food, etc. Et moi, je trouve ça extrêmement positif. Également que la BPI soutient énormément les entreprises françaises. Voilà, il y a en plus qui est rentable, ce qui est quand même dingue. Oui. Et voilà, donc moi, c'est vraiment juste de dire qu'il y a aussi un petit peu de joie dans tout ça, qu'il ne faut pas constamment désespérer et qu'il faut croire en nos futures générations.
Absolument, malgré la sinistrose ambiante. Voilà le coup de cœur ce soir de Sixtine. Xavier Patrolin, 30 secondes. Allez.
C'est un coup de gueule. Donc, j'ai écouté la séance de questions au Premier ministre, qui, à mon avis, unique sous la 5e République. On n'a jamais vu ça, mais c'est intéressant parce que c'est un exercice extrêmement challenging. Et à un moment, le Premier ministre a dit il n'est pas de tradition que le président de la République et le Premier ministre se déplacent à l'étranger, en évoquant Mayotte.
C'est ça.
C'est terrible.
Ah, ça fait mal.
Terrible. C'est terrible. Surtout quand on a précédemment fait le conseil municipal de Pau la veille au soir. Je rappelle que Mayotte est un département français, fraîchement arrivé, mais un département français avec un préfet français. Et donc, il est gênant que le Premier ministre, alors je comprends qu'il y a une très grosse activité sous ces 48 dernières heures, mais ait pu faire cette déclaration. Ouais. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un coup de gueule symbolique, c'est pas méchant mon propos. Mais là, pour le coup, les communicants doivent le soigner très rapidement.
L'ambiance va être sympa ce soir à l'Élysée. Jackie, 30 secondes, Jackie.
Ben moi, c'est un coup de cœur. Paul Watson est libre, enfin. J'avais menacé les Danois sur mon compte Twitter, donc ils ont dû avoir peur. Je leur avais dit, si jamais vous le remettez au japonais, je ne mettrai mettre plus les pieds au Danemark ou que ce soit. Non, blague à part, je pense que ça aurait été quand même un sacré coup de tonnerre si on avait remis à ce système judiciaire sur lequel il y a beaucoup à dire au Japon, ce gars incroyable qui est Paul Watson.
Absolument. Voilà. Bruno, très vite, malheureusement, on est en retard. Allez-y, Bruno.
Un coup de cœur qui met en perspective nos problèmes de réindustrialisation, de coût du travail. Toyota produit à peu près 300 000 voitures en France depuis à peu près une vingtaine d'années continue sur sa stratégie de production sur une base France. Il n'a pas de problème de coût du travail.
Oui.
Il gagne des parts de marché en France et en Europe.
Et ben voilà.
Message aux constructeurs
français. Message passé à qui vous savez. Merci à tous les quatre d'être venus. Sixtine Moulet-Berto, Bruno Coquet, Jackie Isabello, Xavier Patrolin. Merci, à très vite avec plaisir. 19h56, pardon pour le retard. Tekenco dans un instant, François Sorel. À demain, bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.